Quel est le statut de la femme dans le christianisme? Question délicate, parce que si l'on compare au statut de la femme dans l'islam que beaucoup de chrétiens critiquent, l'islam ayant 1300 ans d'âge, si on regarde la place de la femme au XIVe siècle dans le christianisme, il n'y aurait sans doute pas de quoi être très fier. Il faut bien dire que la femme n'a pas toujours été vraiment bien traitée dans l'Église. Et il n'y a pas de quoi pérorer non plus, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore de très nombreuses églises chrétiennes qui n'acceptent pas le ministère féminin, comme pasteur ou comme prêtre. Eh bien, c'est une chose plus ou moins curieuse, et par conséquent, on ne peut pas franchement prétendre qu'aujourd'hui l'Église donne toujours le bon exemple. Mais revenons aux fondamentaux, c'est-à-dire à la Bible. La chose n'est pas simple non plus. Globalement, il faut bien dire que la Bible est plutôt patriarcale. C'est vrai, c'est une histoire d'homme. Comment l'expliquer? Je dirais que c'est probablement le contexte socio-culturel. Et on dit en général que si Jésus n'a pris que des hommes pour être apôtre, c'est que s'il avait pris des femmes, elles auraient été prises pour des femmes de mauvaise vie ou des femmes de légèreté, et que ça n'aurait été bon ni pour lui ni pour elle. Mais ce qui est vrai, c'est que les femmes sont extrêmement présentes dans la Bible. Elles sont extrêmement présentes, elles ont un rôle absolument considérable, du début à la fin, et je dirais souvent très beau. Et c'est vrai qu'il faut lire toutes ces histoires de la Bible et voir que les hommes dont il est question dans la Bible ont toujours beaucoup de défauts. Il n'y a pas beaucoup d'hommes parfaits dans la Bible. La Bible n'est pas la légende dorée, on ne nous raconte pas la vie de gens exemplaires qu'il faudrait imiter, mais tous les acteurs de la Bible font toujours des quantités d'erreurs, d'horreurs, de choses parfois même effroyables. Et finalement, les femmes dont il est question dans la Bible, qui sont très nombreuses, à part quelques exceptions, sont plutôt bien, je dirais, font plutôt moins de bêtises que les hommes. Alors oui, c'est vrai, il y a des exceptions. Il y a l'effroyable Jézabel dans l'Ancien Testament qui tuait les prophètes. Il y a dans le Nouveau Testament l'abominable Salomé avec sa mère qui a demandé la tête de Jean-Baptiste à Hérode. Mais mis à part celle-là, globalement, les femmes, et même dans l'Ancien Testament, non seulement sont très présentes, mais elles sont très actives et en général plutôt bien. Pensez par exemple à la mère de Moïse qui va sauver le sauveur du peuple, dirais-je. Pensez à Myriam, la sœur de Moïse qui prophétise. Pensez à toutes les grandes matriarches, à Sarah, Rachel, Léa. Et pensez encore à ces deux personnages féminins à qui la Bible a même décerné un livre entier. Je pense à Ruth, la Moabite, et Esther. Ruth qui est présentée vraiment comme l'exemple même de la générosité, de la piété, de l'intelligence. Et il y a tout un livre pour elle, et elle est montrée en exemple. Aucun livre dans la Bible ne présente le héros du livre en exemple, seulement le livre de Ruth. Et peut-être aussi le livre d'Esther. Esther, cette femme juive qui va sauver tout son peuple grâce à sa douceur, son intelligence et sa subtilité, sans faire une seule bataille, tout cela est absolument extraordinaire. Et dans le Nouveau Testament, on ne peut que citer, bien sûr, pour commencer, le rôle de Marie, qui est considérable, avec le fiat de Marie, avec sa foi, sa disponibilité. Et l'évangile de Luc commence par des histoires de femmes qui acceptent le projet même de Dieu. Et puis, il y a aussi plein d'autres femmes essentielles dans l'évangile. Marthe et Marie, cette Marie-Madeleine, dont il est question à la fin de l'évangile de Jean. Et là, c'est extraordinaire. Marie-Madeleine, qui est présenté comme le premier témoin du Christ ressuscité dans l'évangile de Jean, et comme la première personne à qui le Christ apparaît et que Jésus envoie en mission. Marie-Madeleine est la première apôtre du christianisme. Et ça, quand je vois mes collègues dans les autres églises protestantes qui refusent des femmes pasteurs, je ne comprends pas. Je me dis comment le Christ lui-même, il a trouvé bon de confier à une femme le rôle d'annoncer la résurrection aux hommes. Et nous, on dit, ah ben non, il n'y a que les hommes qui peuvent prêcher. C'est quand même absolument incroyable. La première apôtre du christianisme choisie par le Christ, c'est une femme et c'est Marie-Madeleine. Et puis l'autre histoire que je vous ai lue aussi, cette femme au parfum, dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Était-ce la même, n'était-ce pas la même? Probablement pas la même. Marie était un nom courant à ce moment-là. Cette femme au parfum qui fait cet acte de don, de générosité, d'humilité, et dont Jésus dira, vous savez, hein, partout où on prêchera l'évangile, il sera fait mention d'elle. Jésus dit ça. Et comment se fait-il que nos églises, depuis 2000 ans, aient une telle tâche aveugle devant ce commandement pourtant clair de Jésus-Christ ? Jésus a dit, je vous donne mon corps, je vous donne mon sang, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Alors là, on s'en souvient. Et on nous rabâche des saintes scènes, des eucharisties, des communions. Et on dit, voilà, c'est ça la présence du Seigneur, c'est ça, c'est ça. Et on oublie que Jésus, avant même de faire la scène, a présenté comme sacrement de sa présence et de sa bonne nouvelle une femme pécheresse qui reconnaît son péché. Et Jésus lui-même a dit, partout dans le monde, chaque fois que l'on prêchera l'évangile, on fera mention de cette femme. Qui aujourd'hui fait mention de cette femme au parfum quand on prêche l'évangile? On n'en parle jamais. Ah si, une fois tous les 3 ans, parce que dans les listes de lecture, une fois tous les 3 ans, ce récit apparaît. Avouez que ça n'est pas beaucoup. Bon, je ne suis pas meilleur que les autres, j'en parle pas beaucoup plus souvent qu'une fois tous les 3 ans, mais quand je suis retombé sur ce texte, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, on passe complètement à côté de notre mission. Et donc effectivement, je pense qu'il y a là, dans cette femme au parfum, la base, vraiment un fondement essentiel de l'évangile. C'est que la bonne nouvelle, ça n'est pas une virilité batailleuse, ça n'est pas de la testostérone d'orgueil, ce n'est pas de la force physique, mais l'évangile c'est la douceur, c'est la tendresse et c'est l'humilité. Et je pense que de ce point de vue-là, les protestants aussi ont sûrement eu tort d'évacuer un petit peu la Vierge Marie. Parce qu'en effet, quand on pense, aux ravages que peuvent provoquer des images trop masculines de Dieu, quand on croit que l'idéal, l'ultime, le fondamental, c'est un Dieu guerrier, eh bien on finit par être des guerriers, c'est tout, voilà. Et si on croit que l'infini, l'ultime et l'essentiel, c'est l'amour, la tendresse, la maternité, eh bien on peut devenir dans ce monde des êtres de fécondité, d'amour et de tendresse. Et de ce côté-là, je trouve que le catholicisme médiéval, en incorporant Marie dans la divinité, fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il incorpore de la féminité en Dieu. Et il dit, vous voyez, dans ce qu'il y a pour nous de plus essentiel et de plus important, en Dieu, il y a Dieu, et puis il y a là, juste à côté, Marie, femme et mère. Voilà. Et donc, on incorpore de la féminité dans ce que l'on considère comme le plus essentiel et fondamental de notre existence. Et ça, c'est unique, c'est essentiel. Alors bon, moi, je suis un indécrottable protestant calviniste, donc l'idée de rajouter des gens à côté de Dieu ne me convient pas trop, et étant très monothéiste, pour moi Dieu est Dieu et puis c'est tout, j'ai pas besoin de rajouter des tas de gens autour, mais en tout cas que cela nous serve de leçon pour dire qu'il faut que le Dieu dans lequel nous croyons, il faut que dans ce Dieu il y ait cette dimension de maternité et de féminité, et que par conséquent le Dieu dans lequel on croit n'est pas un patriarche n'est pas un monarque oriental faisant trembler ses sujets, mais le Dieu dans lequel nous croyons, il est autant père que mère. Il est autant, homme que femme, et il est autant force que tendresse, douceur et humilité. Et ça, quand on regarde le Dieu prêché par Jésus-Christ, eh bien, c'est un Dieu finalement extrêmement féminin, et le Dieu de l'Ancien Testament aussi, qui nous est dit avoir comme qualité essentielle la miséricorde, et la miséricorde, en hébreu, c'est le sentiment que la mère porte pour l'enfant qu'elle a dans son ventre. Et donc, vous voyez, il faut que ce Dieu, finalement, garde cette dimension essentielle de féminité. Donc oui, je dirais, la femme, dans le christianisme, non seulement doit avoir une place importante, mais elle doit même avoir une place en Dieu, je dirais. Elle doit être divinisée, en quelque sorte. Bon. Et puis maintenant, il y a malheureusement ces propos misogynes de Paul. Alors ça nous embarrasse beaucoup. Oui, ces femmes, soyez soumises à vos maris, de Paul, ou encore Paul qui dit, 1 Corinthiens 14, « Il est malséant à une femme de parler dans une église. » Bon, alors ça, j'avoue que... Et encore, il y a pire. Il y a 1 Timothée 2, verset 11 et suivant, je n'ose même pas vous le lire, tellement c'est abject, c'est insupportable. Alors, on est bien embêté devant de tels propos, et comment on s'en sort? Eh bien, bon, soit on l'applique tel quel, mais je pense que l'appliquer tel quel serait une erreur théologique, tout simplement parce que le Nouveau Testament doit être cohérent par rapport à lui-même. Et on ne peut pas tirer d'un verset de Paul quelque chose dont on ferait une théorie universelle pour l'Église tant que l'on ne trouve pas dans l'Évangile, je dirais, quelques propos, quelques actions du Christ qui puissent légitimer ça. Or, je pense que ces propos de Paul sont discordants par rapport à l'attitude fondamentalement accueillante pour les femmes de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais eu un mot malheureux contre les femmes, ou d'exclusion, ou de rabaissement. Jamais. Par conséquent, théologiquement, je ne peux pas accepter que l'on lise au pied de la lettre ces propos pour dire que les femmes n'auraient pas le droit de prêcher, par exemple. Alors, comment on s'en sort? D'abord, sur ces propos de 1 Timothée que je ne veux même pas vous lire, là, j'ai quelque chose de très simple. Vous regardez dans n'importe quel commentaire et tout le monde vous dira « Cette lettre de Paul à Timothée est apocryphe ». Paul ne l'a jamais écrite, elle a été composée tardivement dans l'Église, donc on est déjà dans des dérives de l'Église. Voilà, on est dans des dérives de l'Église, et c'est vrai que l'Église, très rapidement, a dérivé vers une misogynie ambiante absolument catastrophique. Ensuite, on peut essayer de faire dans la subtilité et dire « Oui, alors, maintenant, quand Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est peut-être Paul qui le dit, mais... c'est pas un propos sur la famille, mais c'est un propos théologique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une parabole. Et il dit de même que la femme est soumise à son mari dans la société, de même, nous devons être soumis au Christ, qui est comme l'époux de l'Église, enfin. Donc il en tire des tas de conclusions plus ou moins intéressantes. Par conséquent, c'est une parabole, et il ne faut pas croire qu'il faudrait appliquer le modèle qui sert à la parabole, de même qu'il ne faudrait pas croire que Jésus enseigne aux agriculteurs à semer dans les ronces, sur les rochers et sur les chemins avec la parabole du semeur, ou qu'il encouragerait les intendants à voler les biens de son maître. Donc l'important, c'est la leçon théologique et pas ce dont il est question. Ou alors, on peut aussi dire... Finalement, les propos de Paul sont purement culturels, donc on écarte. Et il faudrait peut-être faire un peu de tri dans l'Évangile qui a été écrit dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Donc ça, c'est purement culturel. Paul parle dans une société où globalement les femmes sont soumises à leur mari, donc il n'a pas le recul nécessaire par rapport à cette dimension culturelle, et il va dans le sens de sa culture ambiante. De même que Paul tolère l'esclavage, et personne aujourd'hui ne prend, enfin normalement, les propos de Paul pour dire que ce serait très bien d'avoir des esclaves à la maison plutôt que de payer des femmes de ménage avec des chèques emploi-service, si vous voulez. Et donc, c'est culturel et seulement culturel. Alors, cela dit, quand on commence à vouloir faire le tri dans... Je dirais à faire le tri entre ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas, on se met dans une situation dangereuse, parce que qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est très compliqué. Et qu'est-ce que l'on va tolérer au nom de la culture, et qu'est-ce qui culturellement, pourtant présent, devient intolérable pour des raisons théologiques? C'est un débat assez complexe. Après, il y a la lecture historico-critique qui arrange tout le monde, et qui consiste à dire, attendez, Paul parle dans un contexte, et donc l'important, c'est pas ce que dit Paul, ne parle pas dans l'absolu, il parle dans un contexte, et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que dit Paul par rapport au contexte où il parle, pour essayer de voir dans quel sens Paul dirige ses propos, vous voyez. Et donc on dit à ce moment-là, quand Paul dit que les femmes se taisent dans l'Église, eh bien c'est déjà un progrès, parce que de son temps, les femmes n'avaient même pas le droit d'entrer dans les églises et les synagogues. Et donc Paul, autrement dit, ne brime pas les femmes, il les fait entrer dans l'église. Ah, c'est extraordinaire. Alors certes, elles n'ont pas encore le droit de parler, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et donc si on veut être fidèle à Paul, il faut voir par rapport à notre contexte ce que l'on peut faire dans le même sens, et donc se dire quelle est la place de la femme aujourd'hui dans l'Église et comment peut-on lui faire faire un pas de plus en avant dans l'intégration. Voilà, ça c'est être fidèle à la pensée de Paul et non pas au contraire la mettre dehors. Bon, et puis je vais vous dire, je vais être honnête, je vais être tout à fait honnête pour vous dire que moi finalement je me fiche un peu de ce que dit Paul. Paul dit ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas paulien, je suis chrétien. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'Évangile, et ce que dit Paul, ça le regarde. Je le lis d'un œil attentif et vaguement respectueux, mais Paul n'est pas mon Seigneur, Sauveur et Maître. Paul n'est pas la parole incarnée de Dieu, et donc Paul, c'est qu'un avis sur le début de la façon avec laquelle l'Évangile a été vécu. Et donc, je prends une distance très facile par rapport à lui. Mais donc, dirais-je, il ne faut pas prendre la Bible comme un modèle de vie, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est culturellement décalé par rapport à nous, mais il faut prendre la Bible comme un livre théologique, c'est-à-dire comme une révélation. Et la façon de vivre est trop lié au contexte culturel, historique dans lequel on se trouve. Il faut aller voir plus en profondeur quelle est, dirais-je, l'anthropologie biblique, c'est-à-dire comment la Bible considère fondamentalement l'homme et, je dirais, dans sa déclinaison en deux sexes, masculin et féminin. Alors l'Ancien Testament d'abord. Vous savez, on a deux récits de création, Genèse 1 et Genèse 2, écrits à des époques différentes. Genèse 1, c'est le plus simple, et le plus lumineux et le plus extraordinaire, à mon avis. Genèse 1, verset 26, je vous lis. Dieu dit, « Faisons l'humain à notre image et selon notre ressemblance. » Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. Ça, c'est extraordinaire, parce que l'on voit que qu'est-ce qui est créé à l'image de Dieu? C'est l'homme ou c'est la femme? Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est l'humain qui est créé à l'image de Dieu. Et cet humain, le texte nous dit qu'il est créé homme et femme. Ça veut dire que ce qui est à l'image de Dieu, c'est ni l'homme en tant que sexe masculin, ni la femme en tant que sexe féminin, mais c'est homme et femme. C'est-à-dire que c'est finalement le couple qui est à l'image de Dieu. Et on a l'image de Dieu quand on a à la fois le principe masculin et le principe féminin. Si on n'a que l'un des deux principes, on n'a pas l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est faite que lorsqu'on a complété les deux principes masculin et féminin. Là, je fais un petit encart, dont je vous prie de m'excuser, sur le fait qu'on sait aujourd'hui par les bons psychologues qu'il y a en nous tous une part de masculin et une part de féminin, et qu'il ne faut pas forcément dire que les femmes sont forcément, douces, gentilles, accueillantes, tendres et tout ça, et que les hommes sont forcément des affreux machos, guerriers et brutaux, et qu'il y a en nous toujours ces deux principes qui coexistent. Et donc, l'important en tout cas, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce sont les deux ensemble qui sont l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, pourquoi n'est-elle pas un seul individu? Eh bien parce que, justement, je crois que Dieu est fondamentalement complexe. Et que Dieu est dialectique, Dieu est dialogue, Dieu est complémentarité, Dieu est fécondité. Et c'est par cette complémentarité, cette complexité de l'image de Dieu, que Dieu devient fécond. Et ça, ça me fait penser à saint Augustin, qui parlant sur la Trinité, dit « La Trinité, c'est important parce que quelqu'un tout seul est stérile. » Et que la Trinité, donc, où il y a plusieurs personnes, saint Augustin a dit « Par personne, il ne faut pas entendre des individus, mais des relations. » C'est-à-dire que Dieu n'est pas une personne, mais Dieu est relation. Relation à l'autre, débat, dialogue, complémentarité, rencontre, et que c'est là où il se passe quelque chose, si vous voulez, qui peut donner la vie. Genèse 2 est plus compliqué, avec Adam et Ève tirée de la côte d'Adam, et là, on voit arriver les vieux machos avec leurs gros sabots. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui » et donc il prend une côte et avec une côte il fabrique Ève, c'est-à-dire pas grand-chose. Eh bien, le texte n'est pas comme ça. D'abord, quand on dit que Dieu dit de l'homme « Il n'est pas bon qu'il soit seul », il a raison. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'important c'est la relation à un autre. Et à un autre qui soit différent, c'est-à-dire que si je suis copain avec celui qui me ressemble, qui est comme moi, qui aime tout comme moi et qui est exactement comme moi, ce n'est pas de l'autre. C'est relation à quelqu'un qui n'est pas moi, voilà, qui est différent de moi. C'est ça l'essentiel. Et quand la Bible dit « je ferai une aide qui soit comme lui », l'aide, ça c'est formidable, parce que « ézer » en hébreu, c'est le mot pour dire « aide », c'est pas l'aide de la boniche pour faire la vaisselle, mais ézer, l'aide, c'est le mot qui est utilisé pour Dieu lui-même. Dans les psaumes, je dirais des dizaines de fois, le psalmiste dit « L'Éternel est mon aide », ézer, le même mot. Et les psalmistes, alors là, les traducteurs, pardon, qui sont malhonnêtes, quand c'est Ève, il dit « Je lui ferai une aide pour lui rendre service », et quand on dit « Dieu est mon aide », ils disent « Dieu est mon secours, Dieu est mon salut ». Eh bien voilà, l'aide dont a besoin l'homme, ce n'est pas une boniche, c'est un secours et c'est un salut. Et la Bible nous dit au départ que la femme est pour l'homme un secours, comme le secours de Dieu. C'est-à-dire que la femme est même pour l'homme comme ce qu'est Dieu pour l'homme, pour l'humain. C'est d'une force absolument extraordinaire. Et je crois que c'est souvent vrai. C'est souvent vrai parce que, je dirais même chez les pauvres gens qui n'ont eu à peu près aucune éducation morale, aucune attention à l'autre, etc., eh bien, ce sont les femmes qui sauvent ces gens-là. Parce qu'elles, elles ont le sentiment de l'importance de la vie. Elles portent la vie, elles donnent la vie. Elles font des enfants. Et quand on fait des enfants, on ne voit pas la vie de la même façon, je crois. Et je pense que ces femmes, souvent, sauvent, je dirais, ces pauvres garçons perdus dans n'importe quoi, parce qu'elles, à un moment donné, il y a quelque chose qui les rattache à la vie. Et là aussi, la Bible est forte, parce que, vous savez, elle a donné symboliquement à Ève le nom de Ève, qui veut dire, en hébreu, la vivante. Et Adam, lui, Adam, ça veut dire le terreux. Donc voilà, Adam, c'est de la terre, et Ève, c'est la vie. Et donc, la terre a besoin de la vie pour pouvoir donner la vie. Et puis, Ève, donc, cette aide, ce secours de l'homme, il est tiré de la côte d'Adam. Alors là, c'est une histoire bien connue, et depuis le Moyen-Âge, les rabbins en ont fait une interprétation platonicienne intéressante, qui me semble la seule acceptable. C'est qu'en hébreu, il n'y a qu'un seul mot pour désigner la côte et le côté, c'est-à-dire une moitié. Et donc, ils ont dit, en fait, ce n'est pas une côte que Dieu prend, c'est tout un côté. C'est-à-dire, c'est comme l'homme est créé au départ, on l'a vu, homme et femme, donc une sorte d'androgyne, et puis Dieu le coupe en deux, en prenant la moitié homme et la moitié femme, chacun avec un côté, et ensuite, comme dit Platon dans Le Banquet, finalement, cet androgyne coupé en deux ne cherche qu'à se retrouver pour refaire l'unité. Et c'est ça, effectivement, on retrouve là la même chose qu'en Genèse 1, qui voudrait dire que ce qui est à l'image de Dieu, c'est les deux qui se retrouvent, et qu'il n'y en a pas un qui serait inférieur à l'autre. Et puis, cela, donc, très bien, ça montre, voyez-vous, que, en tout cas, anthropologiquement, je pense que dans la Genèse, il n'y a pas beaucoup de raisons de faire une hiérarchie entre l'homme ou la femme, ou si on regarde bien, ce serait plutôt en faveur de la femme. Mais que finalement, ce qui me semble plus essentiel dans le Nouveau Testament, maintenant, ce qui me semble essentiel, et je m'arrêterai là-dessus, c'est ce que dit Paul. Paul, au milieu de ses horreurs, a dit quand même une belle chose. Et il dit, vous savez, devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Voilà. Devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme, ni masculin ni féminin. Galates 3, 28. Et ça, je crois que c'est le fond de l'affaire. C'est qu'en fait, la question du sexe n'est rien par rapport à Dieu. Certes, il y a des différences physiques entre l'homme et la femme, mais le physique n'est que passager et n'est rien par rapport à Dieu et à l'éternité. Et il y a des différences imposées par la culture, des vêtements, de coiffure, de comportement, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, si ça n'est pas en contradiction avec le principe fondamental et anthropologique, qui est qu'en Dieu, l'homme et la femme sont à égalité, parce que pour Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Et je pense que ça doit être le principe fondateur de notre conception de la place de l'homme et de la femme. Donc allez-y pour les schémas culturels et les histoires de genre comme vous voudrez, mais pour ce qui est de ce qui concerne l'éternité, le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir, mais rien de rien de rien. Et l'Évangile, lui, ce qu'il nous dit, c'est que la vraie relation à l'autre, c'est la relation d'amour. Et la relation d'amour, ce n'est pas une relation sentimentale, mais l'amour dans l'Évangile, dans la Bible, c'est l'ouverture et le respect à l'autre. Et quand Jésus, lui, ce qu'il nous dit, Jésus qui ne se préoccupe pas du tout de savoir si son interlocuteur est un homme ou une femme, il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans le prochain, il y a aussi la prochaine, évidemment, hein, et ce n'est pas la question de savoir si j'aime mon prochain, mais pas ma prochaine. L'amour, c'est l'ouverture et le respect de l'autre. C'est tout. Par conséquent, dans l'amour, l'amour véritable, l'amour évangélique, il ne peut pas y avoir de soumission à l'autre. Il ne peut pas y avoir de soumission à l'autre. L'amour n'est pas la domination. L'amour, ce n'est pas la soumission. L'amour, ce n'est pas la dévalorisation de l'autre. Ce n'est pas non plus la divinisation de l'autre. L'amour, c'est une relation d'égal à égal. C'est une relation équilibrée. L'amour, c'est une relation où l'autre est reçu comme un individu plein et entier, c'est-à-dire comme un vis-à-vis. Tiens, le vis-à-vis, c'est ça. Où Dieu dit dans la Genèse, à propos d'Adam pour créer Ève, je lui ferai un vis-à-vis qui soit comme lui, c'est-à-dire à son niveau, pas une boniche sous ses pieds, un vis-à-vis à son niveau. Et en amour, certes, la relation d'altérité est importante, parce que si je n'aime que celui qui est comme moi, c'est simple. Aimer, c'est aimer un autre qui n'est pas le même, un autre qui est différent de moi. Mais l'amour ne suppose pas que l'on attende que l'autre devienne semblable à soi. Et donc je n'aime pas l'autre pour qu'il pense comme moi ou qu'il agisse comme moi. Mais aimer l'autre, c'est aussi accepter que l'autre ne soit pas moi, ne soit pas comme moi, ne pense pas comme moi, n'agisse pas comme moi ou n'ait pas les mêmes valeurs. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'image de l'amour entre l'homme et la femme est intéressante puisqu'il y a une altérité. Et je crois que le véritable amour suppose une altérité. Et même dans les couples homosexuels que l'on peut voir, ces couples sont intéressants quand il y a une altérité, c'est-à-dire où ce n'est pas deux fois le même qui vivent ensemble. Bon, s'il y a une différence sexuelle, l'altérité est encore plus évidente. Mais peu importe. Et donc il y a une altérité, mais chacun a un rôle différent, mais chacun doit aimer l'autre, l'accepter et le respecter. Et quand on dit qu'ailleurs dans la Bible, l'amour entre l'homme et la femme est pris comme une image de l'amour entre Dieu et l'humanité, on voit ce que c'est-à-dire que Dieu aime l'homme et l'homme aime Dieu, mais Dieu n'attend pas que l'homme soit semblable à lui. Et l'homme n'attend pas que Dieu se rabaisse à son niveau. Il y a dans l'amour entre Dieu et l'humain quelque chose qui est dans l'altérité totale et dans la totale acceptation avec reconnaissance de ce qu'est l'autre. Et quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire que celui que tu aimes, tu le considères comme un autre toi-même en face de toi, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est effectivement à ton niveau et qui a autant de droits que toi-même. Et c'est également encore ce que fait Dieu quand on dit qu'il fait alliance avec l'homme. On ne fait pas alliance avec un esclave. Un esclave, on le fait obéir à coup de fouet. On ne fait pas alliance avec un vaincu. Le vaincu, on l'extermine, on lui pille tous ses biens, etc. Mais on fait alliance avec quelqu'un de même niveau, avec qui on discute, quelqu'un dont on reconnaît la souveraineté et le droit de dire « je » comme un autre. Et ainsi, dirais-je, fondamentalement, pour la Bible, il n'y a ni homme ni femme, je crois, que ça ne doit pas être une question théologique et biblique, et finalement, j'aurais pu évacuer la question très simplement. Pour Dieu, il n'y a pas homme ou femme, pour Dieu, il y a ses enfants. Et Dieu aime ses enfants, hommes ou femmes, absolument indistinctement, de la même manière. Et néanmoins, nous, dans notre relation les uns aux autres, eh bien, nous devons apprendre justement à aimer les uns et les autres comme nous-mêmes. Et c'est dans l'acceptation de la différence, de la complémentarité, de l'altérité de l'autre, et dans le fait justement de s'unir à l'altérité de l'autre sans confusion, sans mélange, et que, comme dit le célèbre concile de Chalcédoine à propos de l'union entre Dieu et l'homme en Jésus-Christ, c'est là que se trouve la fécondité. Mais dès que l'un est rabaissé ou écrasé, il n'y a plus de fécondité. Et notre Dieu est un Dieu de vie, c'est un Dieu d'amour et un Dieu de respect de l'un et de l'autre, et en cela, nous pouvons avoir la vie et la donner. Amen.